Nous sommes à dimanche de rentrée, ce qui laisserait entendre que nous avons été en vacances jusque-là. Mais vous le savez bien, mieux que moi, l'Église n'est jamais en vacances. Et ce n'est pas parce que nous sommes en dimanche de rentrée que nous célébrons quelque part les vacances de l'Église. Et dans ce sens-là, peut-être quand même certains aujourd'hui n'étaient pas là dimanche passé pour entendre la première prédication sur le livre d'Esther. Peut-être que certains n'ont plus entendu celle de notre frère Henri Blocher au mois de juillet. Et donc, en quelques mots, je vais redire le contexte avant que nous entrions aujourd'hui dans le chapitre 2 de ce livre d'Esther. Esther, c'est un livre qui était écrit pour une histoire qui s'est passée il y a 2500 ans. Alors que le peuple de Dieu était menacé d'extinction. On y apprend comment une jeune petite orpheline juive, par un concours de circonstances et un retournement de situation assez inouï, est devenue reine d'un empire phénoménal. On y apprend aussi comment Dieu a placé cette jeune fille juive là, précisément, pour éviter le premier génocide juif. Quand notre frère André Blocher a présenté l'ensemble du livre, et je vous invite à réécouter sa prédication sur notre site internet si vous ne l'avez pas entendu, il a tiré un certain nombre d'enseignements pour nos vies à partir de ce livre. Comment pouvons-nous, dans une société qui est pluraliste, polythéiste, une majorité de gens ne pensent pas comme nous, comment pouvons-nous vivre notre foi? Comment, dans une société où Dieu n'est pas présent, où Dieu est absent, et vous savez, vous l'avez entendu dans le livre d'Esther, Dieu est complètement absent, il ne mentionne jamais, un peu un reflet de la société dans laquelle on est, comment dans cette société-là pouvons-nous vivre une vie intègre? Une vie où on ne se confond pas simplement avec la société à l'intérieur. Ce livre nous montre comment Dieu est capable de renverser des situations impossibles. Comment Dieu reste maître. Maître de l'histoire. Maître des vies. Comment Dieu est capable de renverser un roi arrogant en lui montrant sa faiblesse. En montrant que c'est bien lui le roi des rois. On a vu dimanche dernier avec la première prédication de cette série que nous allons avoir, la prédication apportée par Clément, que Dieu a renversé l'autorité de ce roi Xerxès. Un roi qui affichait ostensiblement son pouvoir, ses richesses, ses prétentions à tout gouverner. Et qui, alors qu'il est imbu d'alcool, qu'il a trop bu, qu'il est pris d'alcool, demande à sa femme de venir parader devant tous les convives, rassemblés autour d'un banquet. À ce moment-là, il se voit refuser. Elle se voit entendre le nom de sa femme, qui lui dit qu'elle refuse de venir, vêtue de sa seule couronne, parader devant l'ensemble des convives. Lui, qui a un pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble de ses sujets, ne réussit pas à obtenir la soumission de sa femme. Et là, on voit comment Dieu, finalement, ridiculise cet homme puissant et l'amène à prendre conscience que cette puissance n'était que même, qu'elle n'était pas sable. Xerxès se voit conseiller de récupérer sa femme parce qu'elle a refusé d'obéir. Plutôt que de régler son problème de couple, même s'il a été humilié, on lui conseille simplement de se débarrasser de celle qu'il considère être fautive ou responsable d'un problème. Et je me dis qu'aujourd'hui aussi, trop souvent, quand on est face à des problèmes, on cherche à les écarter, à porter la responsabilité sur les autres. Ma femme ne me convient pas, je vais divorcer, en trouver une autre. C'est là la réponse qui est donnée à Xerxès, celle qu'il applique, mais qui ne fait finalement que renforcer l'ensemble des problèmes dans son royaume. Et nous en sommes là quand nous débutons le chapitre 2. Et ce chapitre 2 du livre d'Esther commence avec ces mots « Après cela ». Après quoi ? Et bien justement après que dans un grand accès de colère, le roi ait refusé à Vashti de paraître jamais devant lui. Le verset 16 nous dit que nous sommes dans la septième année du roi. Les événements du chapitre 1er se passaient dans la troisième année du roi, ce qui signifie qu'il y a sans doute 3-4 ans qui se sont écoulés entre le refus et le refus de Vashti et sa répudiation, les événements qui surviennent maintenant au chapitre 2. Dans cet intervalle, on apprend par l'histoire que Xerxès est allé faire la guerre en Grèce. Est-ce qu'il voulait soulager ses frustrations? Est-ce qu'il voulait simplement étendre encore un peu plus son pouvoir? Parce que celui qui a du pouvoir n'en a jamais assez, comme celui qui a de l'art n'en a jamais assez. En tout cas, il se lance dans une expédition militaire qui va mal se terminer, de laquelle il ressort défait. Le verset 1 nous dit, « Après cela, la fureur du roi Xerxès s'apaisa. Il se souvint de Vashti, donc la reine, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet, à savoir sa répudiation. Vous savez, quand on sort défait d'une guerre, on a peut-être la nostalgie des jours d'autrefois. Il est probable que Xerxès, en ce moment-là, démoralisé, pense au temps qu'il a pu vivre avec Vashti, aux jours heureux qu'il a connus avec elle. Il a beau avoir tout un harem de femmes à sa disposition, ces femmes ne remplacent pas la relation de qualité qu'il a pu connaître à un moment donné avec Vashti. Est-ce qu'il regrette tout à coup son geste, son renvoi, sa répudiation? On peut le penser, le texte semble le suggérer, mais ce qui est dramatique dans cette situation, c'est qu'au lieu de régler maintenant le problème, eh bien il reste passif. Au lieu d'essayer de recoller les pots cassés avec son épouse qu'il a répudiée, il reste là, à attendre, démoralisé, défait. Et c'est là qu'interviennent les conseillers, les mêmes que ceux qui lui avaient conseillé de répudier sa femme au chapitre 1. Ils viennent et lui disent, mais tu te sens seul au roi? Verset 2. On cherche pour toi, au roi, des jeunes filles, vierges, belles. Voyons donc. Le roi est seul. Comment pourrait-il être mieux entouré qu'en ayant du plaisir avec le plus belle fille de son royaume? Comment le sortir de sa tristesse? Offrons-lui les filles qu'il désire. Ses conseillers, au lieu de dire la vérité au roi, de lui rappeler que s'il a eu un problème avec Vashti et qu'il se sent seul maintenant, c'est bien qu'il a été imbibé d'alcool et que ce qu'il a demandé était parfaitement non avenu en demandant à sa femme de parader comme une femme objet. Mais plutôt que de voir la réalité en face, une fois encore, ses conseillers lui conseillent de fuir le problème. et d'aller chercher la solution ailleurs. Il n'est pas facile d'avoir de vrais amis, de vrais conseillers. La vie nous apprend que les vrais conseillers sont ceux qui peuvent nous dire la vérité. Ceux qui n'ont pas peur de nous confronter avec amour, avec gentillesse, mais de nous mettre face à nos manques et de nous appeler à régler les problèmes. Ceux-là sont de vrais amis, de vrais conseillers. Écoutez la suite de ce plan génial des conseillers au verset 3. Ils disent « Nomme donc des inspecteurs dans toutes les provinces de ton royaume pour qu'ils rassemblent toutes les jeunes filles vierges et belles dans le harem de Suse, la citadelle. » Verset 4. « La jeune fille qui te plaira, toi, deviendra reine à la place de Vashti. » Vous avez entendu cette histoire déjà étant jeune, si vous avez pu fréquenter les ateliers bibliques ou l'école du dimanche. Peut-être n'avez-vous pas trop réfléchi à ce qui est demandé là. Aujourd'hui, adultes, revisitons cette histoire-là. Quel effet est-ce que ça vous fait? De savoir que les inspecteurs sont nommés pour aller chercher les plus belles filles du royaume et les amener, les présenter au roi pour qu'il les ajoute à son harem. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous choque? J'ai un peu réfléchi à ce que pouvait représenter le conseil qui est donné ici. S'agit-il d'un simple concours de beauté où on va sélectionner la plus belle des femmes du royaume pour en faire la future reine? Ou est-on plutôt en face d'une forme de trafic humain, d'une traite des femmes, où celui qui est puissant, intouchable, abuse de sa position de pouvoir pour s'offrir les plus belles femmes de son royaume, pour avoir tout ce qu'il désire? Et quand on lit les versets 12 à 14, on se rend compte qu'on n'est pas simplement dans le cadre d'un concours de beauté. Parce que les filles qui y sont recrutées vont devoir passer la nuit avec un homme de pouvoir qu'elles ne connaissent pas, qui est beaucoup plus âgé qu'elles. Elles vont devoir rassasier le roi en lui offrant la satisfaction, l'ensemble de ses plaisirs. Il y aura bien une sorte de concours, mais c'est à celle qui pourra offrir la plus belle nuit au roi, les plus belles prestations sexuelles. Et puis après une première nuit, ces femmes ne vont pas pouvoir disposer de leur vie. Elles vont être reléguées, pour la plupart d'entre elles, dans un harem, et avoir le titre de concubine, sans plus jamais avoir la possibilité de revoir le roi, sauf s'il se rappelle d'elle et qu'il les fait appeler. Or, dans un empire où il pouvait y avoir des gens qui étaient pauvres, peut-être que certaines de ces filles pouvaient avoir l'espoir de sortir de leur situation de pauvreté. Peut-être pouvaient-elles penser que d'être prise dans le palais du roi allait être une forme de... une manière pour elle de mieux s'en sortir dans la vie. Ce qui peut nous paraître choquant l'était peut-être aussi un peu moins à l'époque, puisque l'on sait que les puissants généralement montraient leur puissance par le nombre de femmes qu'ils pouvaient avoir et entretenir. Plus un homme était puissant, plus il avait de femmes. Mais est-ce que ce qui était courant dans la société est nécessairement quelque chose qui est acceptable? Est-ce que parce que ça se fait comme ça, on doit considérer que c'est normal? Même dans le cas où certaines de ces jeunes filles pouvaient peut-être y trouver un certain intérêt. Nous vivons dans une société qui n'est de loin pas parfaite. Nous vivons dans une société où nous devons faire face à des événements, à des situations où nous ne pouvons pas toujours être dans le juste ou dans le faux, où il y a parfois une zone de gris qui existe. On le voit, par exemple, dans le Nouveau Testament, quand la pratique de l'esclavage était couramment pratiquée, et que l'apôtre Paul ne demande pas aux chrétiens de tout faire pour faire cesser la situation d'esclavage. Paul savait que s'il avait demandé cela dans la société de l'époque, ça aurait provoqué des émeutes et probablement des bains de sang. Donc, Paul se satisfait d'une situation imparfaite, celle de l'esclavage à son époque, en demandant de transformer la société, non pas au niveau de ses structures, mais par la nouvelle société qu'il est en train de créer, par l'Église, qui, elle, va pouvoir apporter d'autres normes, d'autres principes. Les valeurs de l'Écriture vont être apportées au travers de cette nouvelle communauté, l'Église. Dans l'Ancien Testament, on a aussi une situation imparfaite qui nous est racontée, celle de ces rois d'Israël, qui vivaient eux aussi avec des concubines, qui avaient eux aussi plusieurs femmes. Et Dieu semble tolérer cette situation-là, sans réagir particulièrement. On n'est pas dans le projet de Dieu, très clairement. Dieu ne semble pas s'y opposer non plus, de manière très nette, en acceptant que dans la société de l'époque, ça se soit vécu comme cela. Peut-être comme un moindre mal, alors que l'adultère, lui, était très fermement condamné par le monde. Mais est-ce qu'ici, nous sommes simplement dans une forme de zone grise, un peu identique à celle des rois d'Israël qui étaient polygames? Il me semble qu'il y a encore une différence notable dans ce qui est proposé ici au roi Xerxès. On lui suggère de recruter des hommes qui vont être chargés d'aller prendre les femmes, le texte laisse entendre de force, sans que ces femmes aient vraiment un choix, sans qu'elles ne puissent vraiment refuser la proposition qui leur est faite. Les verbes qui sont utilisés au verset 3 sont les suivants: qu'on recherche, qu'on nomme des inspecteurs, qu'on rassemble les filles, qu'on leur donne des cosmétiques. On a vraiment le sentiment que ces filles n'ont pas de choix. On les prend de force dans une entreprise systématique d'aller chercher les plus belles filles du royaume. Elles n'ont pas de choix parce que le roi a un pouvoir de vie ou de mort sur tous ses sujets. On le verra dans la suite du récit avec ce qui se passe pour Aman. En plus, ce roi pouvait se montrer versatile. Si une fille avait voulu refuser ce qui lui arrivait, elle aurait sans doute risqué la mort. Ici, on est face à une situation choquante d'un roi qui cherche à s'approprier des filles, à les essayer, à les utiliser, puis à les jeter comme un simple objet. Et ce qui nous paraît choquant, et ce qui est choquant, est-ce que ça ne ressemble pas beaucoup aussi à ce que nous avons aujourd'hui dans notre société, où les filles sont aussi souvent essayées, utilisées et jetées? Nous devons être choqués de cela et nous demander comment vivre différemment. Comment les valeurs de l'Évangile nous amènent à un respect de l'autre et non pas à l'utilisation de l'autre. Ces jeunes filles ont été arrachées de leur famille. Elles ont été livrées sans défense un puissant. Aujourd'hui encore, des gens, des personnes se trouvent exploitées, utilisées. Et peut-être se demande-t-elle où Dieu est-il dans ma situation? Que fait-il pour moi? Comment intervient-il? Il semble tellement silencieux. Et ce que nous allons voir au travers du récit d'Esther, c'est que Dieu est là. Même s'il paraît silencieux, c'est lui qui guide l'histoire. L'histoire avec grand H et l'histoire de chacune de nos vies. J'en reste encore à ce cadre général qui nous est présenté au début du chapitre 2, pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel on est. On propose de recruter une nouvelle reine. Quels sont les critères qui nous sont donnés pour le recrutement de cette nouvelle reine? Le verset 3 dit que ce soit des femmes vierges et belles. C'est le seul critère qui nous est présenté pour trouver la nouvelle reine. Ce qui compte, c'est l'esthétique, l'apparence extérieure, le corps, la sexualité. Rien n'est dit du caractère, rien n'est dit de l'intelligence, rien n'est dit de la culture, rien n'est dit de la beauté intérieure de la future reine. On lui demande simplement d'être belle, attrayante. Le chapitre 1 rajoute peut-être un critère supplémentaire. Elle ne doit pas être comme Vashti, c'est-à-dire insoumise. Il faudrait qu'elle obéisse. Cela se passait il y a 2500 ans. Et l'environnement dans lequel nous sommes n'est finalement aujourd'hui pas si différent de ça. Que vous regardiez les shows télévisés, les magazines en kiosque, les vidéos sur YouTube, tout tourne autour de l'apparence. La sexualité est omniprésente. Ce qui compte, c'est le regard des autres, de se conformer aux attentes des autres. Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous résister à ce regard des autres? Comment ne pas entrer dans la course au corps parfait, à la mode vestimentaire, à la carrière professionnelle? Est-ce qu'à l'école, est-ce qu'au travail, est-ce qu'avec mes amis, j'arrive encore à rester moi-même? La pression est telle qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se sentent mal. Le nombre de suicides est même appelant. Jusqu'où est-ce que je peux être moi-même? Et jusqu'où est-ce que je peux répondre aux attentes de mon entourage sans me compromettre au niveau de ma foi? Ce sont des vraies questions. Ce sont les questions qui débordent de ce récit. Ce récit nous interpelle. Comment garder le rêve de manière authentique? On a posé là le cadre général du récit. Nous allons partir du verset 5. Les personnages principaux nous sont dévoilés. Il dit qu'il y avait à Suse, la citadelle, un juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, Benjamin. Le verset 7, c'était le tuteur de sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Or, cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. On a donc ici deux juifs qui vivent très loin de leur pays d'origine, à des milliers de kilomètres. On peut se demander pourquoi sont-ils à Suse dans cette capitale perse. En fait, leurs ancêtres ont été déportés 120 ans plus tôt. Et Mardochée, tout comme Esther, sont des immigrés de troisième ou de quatrième génération. Des immigrés qui se sont installés. Et il reste une bonne partie d'une minorité ethnique, d'une minorité religieuse de mon pays. Ça doit les rendre vulnérables. Leurs origines font qu'ils restent différents des autres. Et je pense que c'est la raison qui explique que Mardochée demande à sa cousine Esther de taire ses origines familiales et religieuses. Il lui interdit de dire qui est là. Même à deux reprises, au verset 10 et au verset 20, comme si elle avait dit, si le fait de dire qui elle était aurait vraiment engendré des problèmes avec nous. Il va y avoir un climat déjà antisémite qui revient. Et Mardochée pense qu'il est sage de rester très prudent sur le fait de s'afficher publiquement. Malgré tout, ces Juifs sont bien intégrés dans la société perse. Mardochée, par exemple, ne porte pas un nom typiquement hébreu. Son nom vient d'une divinité perse, Marduk. On peut imaginer que ses parents ont voulu chercher à effacer la différence qu'il y avait à être immigré dans ce pays. Et pour effacer la différence, ils lui ont fait porter un nom typiquement perse. Ils l'ont aidé aussi à trouver une bonne place dans le royaume. Et Mardochée semble être un haut fonctionnaire de l'administration royale. Il est au service du gouvernement. Quant à Esther, elle porte un double nom, Hadassa, qui vient de l'hébreu, qui veut dire myrte. Mais c'est son nom issu d'une racine perse, Esther, qui va toujours être utilisée. Ce qui montre bien que là aussi, il y a une forme de souhait de se fondre dans l'environnement, de ne pas être trop distinct de la société dans laquelle elle fait partie. On peut se demander s'ils ont toujours encore une foi réelle, ou s'ils se sont tellement assimilés, taisent leur foi, taisant leurs racines, que la foi est reléguée du loin finalement dans leur vie. De leur priorité. J'ai lu certains commentateurs qui reprochent à Mardochée de n'avoir rien fait pour éviter qu'Esther fasse partie de ces jeunes beautés recrutées par les intendants du roi pour entrer dans le harem royal. Bien sûr, Mardochée a adopté Esther comme sa propre fille et il a eu un beau geste en faisant cela. Mais pourquoi n'est-il pas intervenu ensuite pour empêcher qu'elle soit recrutée? Pourquoi n'a-t-il pas fui peut-être en Israël quand le danger devenait réel qu'Esther soit emmenée? Mardochée était déjà trop intégré à la culture. Est-ce qu'il n'a plus la capacité de s'indigner face au mal ambiant? Est-ce que sa foi est devenue molle? Ce sont de vraies questions. Des questions qui se posent aussi à nous au XXIe siècle.
comment est-ce que je me meurs de la société? Est-ce que j'ai encore la capacité à affirmer ma foi, à faire valoir mes valeurs chrétiennes? Comment puis-je ne pas être contaminé au point où on ne voit plus la différence entre moi et un autre inconnu? Mais si certains commentateurs pensent que Mardoché a une foi qui s'est ternie, il me semble moins discerner dans le texte un certain nombre d'indices qui nous invitent à une autre lecture. Tout d'abord, je ne vois pas que le livre porte un regard négatif sur l'attitude de Mardoché au destin. Il ne veut pas dire que le livre approuve nécessairement l'attitude de Mardoché au destin. Mais en tout cas, il ne désapprouve pas de manière explicite le fait qu'Esther soit recrutée et qu'elle n'ait pas tout fait pour l'éviter. Puis ensuite, si on est attentif au texte, on se rend compte que chaque fois qu'il est question d'Esther, ou presque chaque fois, les verbes sont utilisés à la forme passive. Ce qui veut dire qu'Esther n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Ça lui tombe dessus. Elle n'y peut rien. Elle n'a pas le choix d'accepter ou de refuser. Est-ce qu'elle aurait dû encourir le martyre, chercher à se défendre pour ne pas être prise? Il me semble que là, on est dans une zone grise. Et que ce qu'elle fait, à savoir accepter sa condition, alors qu'elle n'a pas vraiment le choix, n'est pas une chose qui est condamnée dans le texte. Dans cette situation difficile pour Esther, l'auteur du livre d'Esther souligne les qualités qui restent les siennes. Il souligne qu'Esther, dans cette situation-là, reste humble. D'abord parce qu'elle obéit à son protecteur, à Mardoché. Ensuite aussi parce qu'elle choisit la simplicité quand elle doit se présenter devant le roi. Esther, pour obtenir les faveurs du roi et gagner le titre de reine, avait les moyens de prendre avec elle dans la chambre du roi tout ce qu'elle voulait. Et plutôt que de le faire, elle choisit la simplicité, elle choisit d'obéir aux recommandations du chef du harem. Donc ça démontre une certaine humilité de caractère. Ensuite, on voit aussi Esther, partout où elle passe, obtient grâce et faveur. D'abord, elle plaît à Hegai, le gardien des femmes de la maison du roi. Et le texte, verset 8, dit « Elle eut sa faveur. Il s'empressa de lui donner ce qu'il lui fallait. » Verset 17, on voit que le roi lui-même est impressionné par Esther. Le verset 17 dit « Elle eut sa grâce et sa faveur. » Plus que toutes les autres vierges. Et le mot faveur, et le mot recède en grec, qui est souvent utilisé à propos de la faveur de Dieu, de son amour inconditionnel pour son peuple. Au pire des difficultés, alors qu'Esther est obligée de marier un inconnu, qu'elle a été retirée des siens, les petits indices qui nous sont donnés dans le texte montrent que Dieu n'est pas absent. Il n'a pas oublié Esther. Qu'il l'aide à garder les traits typiques de sa foi, à rester humble, à avoir un caractère qui fait qu'elle suscite l'adhésion autour d'elle, et que ceux qui l'entourent cherchent vraiment à l'encourager. Dieu est avec elle. L'histoire d'Esther me fait penser à l'histoire de Joseph. Vous savez, vous êtes été vendu par ses frères. Et puis qui ensuite s'est retrouvé entre les mains de la femme de Potiphar qui a cherché à abuser de lui. Il s'est enfui, laissant sa veste, mais on l'a fait passer pour quelqu'un qui avait cherché à abuser de la femme de Potiphar. Il était mis en prison. Et là, dans la prison, nous disons que le Seigneur fut avec Joseph et qu'il lui accorda de la faveur, qu'il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph, tout comme Esther, s'est retrouvé dans une situation injuste. L'un des deux a pu fuir une situation qui aurait été une situation de compromission. Il aurait dû coucher avec une femme qui n'était pas sa femme. Esther a été contrainte dans une situation d'injustice de marier un roi. Mais dans les deux situations, Dieu était présent. Il n'a pas oublié ceux qui étaient victimes des injustices. Et Dieu saura utiliser ces circonstances d'une manière assez prodigieuse. Esther deviendra reine, elle pourra éviter finalement un désastre, un premier génocide. Joseph deviendra prince, elle pourra éviter un désastre, une famine qui aurait coûté la vie de tout le peuple. Tous les deux, à partir d'une situation d'injustice, se voient propulsés à un rang qui leur permet d'intervenir en faveur du peuple de Dieu. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas réjouissant? De se dire que pour nous aussi, il est capable de renverser les situations d'injustice et de nous mettre en bénédiction plus tard pour le peuple de Dieu. J'aimerais conclure. J'ai mis beaucoup l'accent dans ce chapitre 2 sur les critères de beauté, d'esthétique, pour dire que la société dans laquelle se passe cette histoire est une société qui se base uniquement sur l'air, sur le paraître, sur l'être extérieur. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui aussi nous sommes dans une société du paraître. Avec cette question, comment est-ce que je peux vivre ma foi sans me faire engloutir dans cette société du pouvoir? Je crois que si nous voulons ne pas dépendre du regard des autres, si nous voulons placer la beauté ailleurs que simplement dans l'esthétique, dans les critères extérieurs, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus. Ce ne sont plus les autres qui ont à définir qui nous sommes, qui ont à définir notre identité. Nous n'avons pas à nous conformer au regard des autres. C'est Dieu qui définit qui nous sommes. C'est lui qui nous rend beaux. C'est lui qui fait de nous des êtres parfaits. C'est lui qui permet qu'on ne soit pas toujours sur la défensive. C'est lui qui nous permet d'avoir une vraie assurance personnelle. Pas une assurance orgueilleuse, mais empreinte d'humilité, petite d'amour. C'est Christ qui nous rend notre dignité. Alors quel péché nous avait envoyé. C'est vers lui que nous venons nous tourner pour recevoir la vraie beauté, celle qui compte, celle qui aura une valeur éternelle. Je vous invite à entendre un morceau musical maintenant avant que nous prenions la scène ensemble.